Point suivant, c'est notre DOB, débat d'orientation budgétaire 2019. On va le faire à quatre mains et deux voix avec Raymond Weinheimer.
Ça y est, merci. Bien, eh bien, comme chaque année, comme vous le savez, donc c'est la première étape de la démarche budgétaire. Donc je vais essayer en fait de ne pas vous imposer la lecture complète in extenso du document. Je vais essayer de vous en sortir les principales choses. Donc on va commencer par vous dire que notamment les événements qui ont prévalu un petit peu à ce DOB, c'est d'une part le transfert des charges et de compétences, puisque il y a eu un événement, on va dire, de la métropole. Donc obligatoirement, on est bien obligé d'en tenir compte. L'événement de la suppression de la taxe d'habitation et les coûts de l'énergie avec les incertitudes qui vont avec, puisqu'aujourd'hui, on a des hausses, des baisses, mais c'est quand même quelque chose qui influence largement nos finances. Bien, alors, le contexte économique et financier, puisque, comme vous le savez, on n'est pas seul dans le monde, donc nous avons autour de nous des incidences qui sont l'énergie, les finances, que ce soit les emprunts, les taux d'emprunt, la loi de finances qui est décision de l'État. Et donc la croissance économique aussi, puisque ça nous donne une indication après sur les dotations qu'on pourrait avoir. Donc la croissance économique mondiale s'est établie à 3,5% en 2019, enfin prévu 2019 et idem en 2018, sachant qu'apparemment on a atteint le point culminant et qu'on va peut-être pas rester sur cette tendance. Dans la zone euro, on était à 1,9% en 2018. Peut-être les révisions aujourd'hui sont de dire que peut-être on arrivera à 2,1. Toujours est-il qu'il était prévu de 1,9 pour 2019 et lors du rassemblement de Davos, ça a été révisé à 1,6. En ce qui concerne l'économie française, donc la progression a été de 1,5% en 2018 et aujourd'hui, les incertitudes sont liées un petit peu, on va dire, à la conjoncture sociale et économique, puisqu'en fin de compte, aujourd'hui, on ne connaît pas l'incidence des mouvements sociaux qu'il y a eu. On ne connaît pas exactement les incidences que pourront avoir les augmentations du prix d'énergie. Et donc, aujourd'hui, on est sur une prévision qui est de 1,7% que a prévu la loi de finances pour 2019, qui est faite par l'État. L'emploi donc conservera un rythme modéré puisque avec 64 000 créations nettes au premier semestre 2019 après 107 000 pour l'ensemble de l'année 2018, ce qui permettrait une lente diminution du chômage puisqu'en fait compte son taux s'établirait à 9% pour 2019 contre 9,1 en 2018 et 9,4 en 2017. L'indice des prix, donc l'inflation, donc s'établissait en novembre 2018 à 1,9%. La tendance serait plutôt à la baisse et on a prévision de 1,5% pour 2019. Enfin, les conditions d'accès au crédit devraient rester favorables malgré une légère remontée des taux sur le dernier trimestre. La Banque de France a maintenu son taux directeur principal, mais envisage de le relever avant la fin de 2019. Donc nous verrons bien si ça se présente de cette façon. Ensuite, donc on a vu en fait l'environnement, on va dire, international. Maintenant, les principales mesures de la loi de finances 2019, donc a été promulguée le 28 décembre dernier la loi de finances. Elle s'appuie pour 2019 sur une hypothèse de croissance, comme j'ai dit tout à l'heure, de 1,7%. Je pense que c'est un petit peu optimiste, mais j'espère que ce sera au moins ce chiffre-là. Elle prévoit de ramener le déficit public à 3,2% du PIB, alors que le texte initial prévoyait 2,8, mais on sait que le gouvernement s'est déjà engagé à faire un peu plus de déficit. Le gouvernement souhaite poursuivre la contribution des collectivités au redressement des comptes publics, ce qui n'est pas bon pour notre cas, et de moduler l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement et de leurs dettes conformément à la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Les concours de l'État aux collectivités territoriales sont annoncés comme stables au niveau de l'enveloppe nationale. Pour mémoire, la dotation globale de fonctionnement, donc qui est la principale dotation que nous perçue pour notre commune, est passée de 4,5 millions en 2008 à 3 millions en 2018, soit une baisse de 1,5 million, c'est-à-dire un tiers de ce que t'étais représentant. Elle représente 18% de la fiscalité. Le produit encaissé en 2018 est également en baisse de 34 000 euros, alors qu'on nous avait dit qu'il y avait une stabilité en 2018. La DGF 2019 devrait se stabiliser au regard des critères de population, puisqu'en fait, pour une première fois depuis 2-3 ans, notre population a légèrement baissé, augmenté, je veux dire, donc ce qui fait que théoriquement, notre dotation devrait au moins se stabiliser, au minimum. En ce qui concerne la hausse de l'enveloppe représente 190 millions pour la dotation de solidarité urbaine. À noter que cette DSU, donc perçue par la commune, a régulièrement progressé par contre depuis 2008, c'est une bonne chose, passant de 828 000 à 1 million d'euros en 2018, soit une augmentation de 192 000, mais qui est loin de compenser les 1,5 million dont on parlait tout à l'heure. En matière de dotation nationale de péréquation, Montigny est toujours éligible en 2018, avec la seule part principale. Donc son montant, pareil, est passé de 593 000 en 2011 à 273 000 en 2018, soit une baisse de 319 760 euros, qui représente 54% d'attribution perçue en 2011. Alors, la prévision pour 2019, en général, depuis quelque temps, la baisse est de 10%, donc on peut éventuellement penser que ce sera dans cet ordre de grandeur. Ensuite, nous avons une petite recette qui est la dotation des titres sécurisés, qui est fixée à 8 580 par station, par an et par station, on en a deux, depuis 2018, majoré de 3 550 euros pour les communes, enregistrant plus de 1 875 demandes de titres sécurisés au cours de l'année précédente. Voilà, pour mémoire, Montigny a perçu en 2018 36 390 euros. En matière de fiscalité, donc, il est rappelé que donc les engagements du président de la République à la suppression de dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables et de façon progressive jusqu'en 2020. Donc, il est prévu de la supprimer après 2020 pour tous les contribuables. Mais on a déjà entendu des annonces un peu controversées sur le fait que peut-être ce ne serait pas pour garantie pour tout le monde. Donc, nous verrons bien. Le seuil d'éligibilité du dégrèvement est fonction du revenu fiscal. Pour une part fiscale s'élevée à 27 000 euros en 2017, les ménages remplissant ces conditions de ressources ont bénéficié d'un abattement de 30% sur leur cotisation en 2018. Ce taux serait porté à 65% pour 2019 et 100% pour 2020. Donc, l'État devrait prendre en charge l'intégralité de ces dégrèvements dans la limite des taux et abattements en vigueur pour les impositions 2017, les collectivités locales ne devant ainsi pas être impactées pour ce dispositif. Nous verrons, je n'en suis pas persuadé, j'ai rarement vu l'État qui reversait à l'euro, et en plus, la question se pose de la maîtrise de notre fiscalité de recettes, puisque que va-t-on faire si, à un moment donné, nous sommes un peu obligés de, malheureusement, d'augmenter ces taux, comme on le faisait à une époque, puisque même si on essaye de faire des économies, à un moment donné, on va se retrouver à être bloqué. Quand même, il y a un seuil où on ne pourra plus descendre. Et on a quand même l'inflation, l'énergie, enfin, etc., qui augmente. Donc, les frais de personnel également. Donc, c'est une grande incertitude pour moi pour 2019. Enfin, la revalorisation forfaitaire des bases d'imposition devrait s'élever à 2,2% pour les propriétés bâties non bâties, contre 1,2% en 2018 et 0,4% en 2017. Là, c'est facile, puisqu'on revalorise nos bases, mais qui n'est pas payé par l'État, mais payé par le contribuable, donc c'est beaucoup plus facile. Sachant qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas ces bases, donc on ne sait pas, ce sont des chiffres qui ont été annoncés, on ne sait pas si ça va être de cet ordre de grandeur ou pas, et de la même façon, d'ailleurs, pour ce qui concerne les DGF et les autres dotations, où l'année dernière, on les a eues après le mois de mars, on a fait le budget avec une estimation. Et je pense que cette année, on va avoir le même problème pour faire le budget définitif pour le mois de mars, pour la fin mars. En matière de frais de personnel, donc aucune revalorisation du point d'indice n'est prévue en 2019. La dernière date du 1er février 2017, elle était de 0,6%. Seul le SMIG a augmenté au 1er janvier de 1,5%. Le taux horaire est passé à 10,03 euros. Et le montant brut annuel à 1 521,22 euros. Les heures supplémentaires, réforme récente, seront défiscalisées et exonérées de certaines cotisations sociales à partir du 1er janvier 2019. Cette exonération fiscale de l'impôt sur le revenu concerne les heures supplémentaires accomplies à compter du 1er janvier 2019 et dans la limite des 5 000 premiers euros nets imposables d'heures supplémentaires ou complémentaires. Assez simple. L'exonération des taxes des cotisations sociales sur les heures supplémentaires prend la réforme d'une réduction de cotisations, donc cotisations retraite pour les fonctionnaires et cotisations de régime social et de base complémentaire pour les agents contractuels, imputées sur la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base. En ce qui concerne ces heures supplémentaires toujours, par contre, elles demeurent toujours soumises à la CSG et à la CRDS. Parmi les autres augmentations liées aux frais de personnel et à la rémunération des agents, on peut citer la hausse de 1,9% du plafond annuel de la Sécurité sociale et une baisse, par contre, de le taux d'accident du travail qui est fixé à 1,47 pour 2019 contre 2,07 en 2018 et 2,87 en 2017. La phase prévue en 2018 est reportée de mise en œuvre du protocole d'accord sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations concernant l'ensemble du personnel relevant des catégories A, B, C, prend par contre cette fois-ci effet le 1er janvier 2019. En ce qui concerne aussi le compte épargne temps, donc les jours épargnés peuvent faire l'objet d'une monétisation au-delà du 15e jour, contre le 20e auparavant, et les montants forfaitaires ont tous été revalorisés de 10 euros par jour, soit pour les catégories C 75 euros, B 90 euros et A 135 euros. En ce qui concerne le département et la métropole, donc le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, l'Assemblée départementale a décidé de répartir ce fonds sur le seul critère du potentiel fiscal et d'abandonner le critère du nombre de personnes âgées, ce qui ne favorise pas du tout Montigny, ce qui signifie d'ailleurs que Montigny n'est plus éligible parce qu'en fait on est considéré comme une commune à un potentiel fiscal élevé. Donc du coup, on passe à la trappe. Au niveau de la métropole, la commission locale d'évaluation des charges transférées a procédé à l'adoption du rapport final 2018 afférent aux compétences transférées au 1er janvier 2018. Donc je voulais rappeler quand même, puisque je pense que c'est quand même important de se remettre ça en mémoire. Donc les transferts ont été sur les voiries, l'espace public, parking, défense extérieure contre l'incendie, crématorium, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, ce qu'on a le fameux GEMAPI qu'on a retrouvé sur nos feuilles de taxe d'habitation, le plan local d'urbanisme, la concession de distribution publique d'électricité et de gaz et les infrastructures et réseaux de télécommunications. Voilà, conformément donc à la délibération du 14 novembre dernier, les montants de transfert de charges s'élèvent en investissement à 264 202 euros et 434 262 euros en fonctionnement. En matière de dotation de solidarité communautaire, donc la DSC, il est rappelé que son enveloppe était initialement alimentée par une fraction du surplus annuel de la taxe professionnelle. Donc afin de tenir compte de l'impact des transferts de charges sur les budgets communaux, un nouveau critère de répartition dit de neutralisation a été mis en place et complète les 5 critères déjà retenus, qui sont la population, le potentiel fiscal, les logements sociaux, la longueur de voirie et la croissance des bases de taxes professionnelles. Donc tout ça donne mélangé tout ensemble, donne le montant alloué à la commune de Montigny pour 2018 a été fixé à 583 781 euros contre 585 131, donc la baisse est vraiment minime. Et a priori, sur 2019, on devrait rester sur des montants approximativement identiques. Alors, la situation financière de la commune, donc les derniers comptes de l'exercice 2017, les dépenses de réel de fonctionnement ont, pour la deuxième année consécutive, diminué de 188 900 euros. En matière de recettes, les dotations ont continué de baisser, moins de 238 000 pour la DGF dont j'en ai parlé tout à l'heure, et alors que les produits des impôts et taxes a progressé sous l'effet du dynamisme des droits de mutation. Effectivement, il y a un certain nombre d'échanges, on l'a déjà vu au cours des dernières années, où effectivement sur Montigny, il y a pas mal de ventes et de rachats de logements. Ensuite, en matière de dépenses, les charges à caractère général, qui représentent 24% des dépenses réelles, ont diminué de 63 800 euros. À ce titre, il est rappelé que l'incidence financière de la fermeture d'un seul repas est quand même de 38 900 euros. Donc, c'est ce qu'on a connu avec la piscine. L'avantage, c'est que quand c'est fermé, ça coûte moins cher et ça nous permet d'avoir moins de dépenses, puisqu'il y a autant de dépenses de personnel que d'énergie qu'autres dépenses. Les charges de personnel arrêtées à 9 225 000 en 2017 sont maîtrisées et progressent de 0,86%. Ces dépenses tiennent compte de l'augmentation du point d'indice de 0,6% et de la mise en œuvre du protocole d'accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et rémunérations, ainsi que les frais de tenue des élections présidentielles et législatives. Ce qu'on n'aura pas cette année, on aura les européennes. Ouais. Les autres charges de gestion composées des contingents participation et subventions sont fixées à 2 341 000, en diminution de 176 000, avec notamment la fin du financement par la commune du syndicat intercommunal de la vocation touristique, le SIVT, et les aires d'accueil des gens du voyage, qui ont compétences qui ont été reprises par Metz Métropole. Enfin, la commune a continué de profiter de la baisse des taux d'intérêt, puisque les charges financières ont diminué de 178 000 euros, passant de 762 000 à 192 000 euros. L'endettement de la commune s'élève à 23 057 au 31 décembre 2018, contre 21 204 000 en 31 décembre 2017, soit 22 228 000 en 2016 et 23 063 en 2015. Alors l'endettement progresse cette année pour une raison très simple, c'est qu'il progresse d'1 853 000. Nous avons contracté l'année dernière un emprunt à taux zéro auprès de la Caisse de dépôt et la mise à disposition qu'on arrive pour avec certains organismes à décaler sur l'année suivante n'a pas été acceptée par la Caisse de dépôt, donc on a été obligé de le réaliser en 2018. La dette par habitant s'élève à 1055 euros avec une moyenne par habitant sur la même strate de 1063 euros par habitant. Alors l'objectif, bien sûr, est de maintenir l'encours de la dette dans la moyenne par habitant des communes de la strate. Il est rappelé, bien sûr, que vous le savez, on en a déjà parlé souvent, que nous n'avons pas ce qu'on a appelé les emprunts toxiques et que nous avons des taux fixes et des taux variables. Et au fur et à mesure, c'est les taux fixes qu'on va avoir, puisque les taux variables sont des emprunts qui ont été passés il y a déjà quelque temps. Alors, il y a un grand chapitre sur les ressources humaines, qui est une obligation et qui reprend pratiquement le bilan social. Hein. Bon, je vais vous en sortir. Pardon. Je vais en dire quelques-uns. C'est-à-dire que simplement l'effectif de la ville au 31 décembre 2017 était de 241 agents, 181 titulaires, 60 non titulaires. Voilà. L'âge moyen des agents est de 46,09 ans. Le total des traitements indiciaires est de 5 millions pour 2017. Total des heures supplémentaires de 2735 heures supplémentaires. 14 agents exerçant les fonctions de concierge, gardien, équipement sportif et cimetière. Le cycle hebdomadaire est fixé à 39 heures par semaine. 145 agents y sont soumis. 32 sont soumis à un cycle annuel. 10 à des horaires décalés et 9 à du travail le week-end. En 2018 a été mise en place une indemnité compensatrice pour l'ensemble des agents afin de compenser la hausse de la contribution générale de la CSG de 1,7 point à partir du 1er janvier 2018. Le coût pour la ville a quand même été un coût de 58 000 euros et la baisse du taux employeur de la cotisation maladie des agents affiliés à la CNRASCL a permis de compenser cette charge supplémentaire puisqu'elle passe de 50 à 9,88. Voilà. Et à ce jour, 8 agents ont demandé à bénéficier de leur droit à la retraite en 2019. L'investissement, ben je vais continuer sur le fonctionnement, et puis Jean-Luc passera après sur le... Donc, les slides, il va falloir qu'ils passent un petit peu, s'ils m'écoutent.
Il n'y a rien qui passe.
Ah oui, mais si, parce qu'il y a le texte, je ne sais pas, passer peut-être le texte, non ? Bon, eh ben alors tant pis pour eux. Donc, il est rappelé que la section de fonctionnement ben, décrit toutes les opérations de dépenses et de recettes susceptibles de se renouveler chaque année. Le financement de ces dépenses est, comme toujours, financé d'une part par les impôts directs et indirects et par les dotations de l'État. Les charges à caractère général, c'est celles qui font fonctionner les équipements de la ville, l'énergie, l'entretien, etc. Donc cette année, le budget sera impacté par l'exploitation de la salle Europa à partir du 9 mai. Et donc, par le repas des seniors, puisque salle Europa sera rouverte, donc le repas des seniors pourra avoir lieu, et le marché de Noël, qui n'avait plus lieu, puisqu'il se déroulait dans le même endroit. Les charges de personnel devront intégrer les diverses mesures sociales décidées par l'État. L'objectif, en ce qui nous concerne, est de tenter de diminuer ce chapitre budgétaire et d'ajuster l'organisation des services au futur départ en retraite. Les charges de gestion courante, donc qui sont principalement toutes les subventions versées aux associations et les participations aux diverses structures intercommunales, devraient également baisser globalement. Cependant, contrairement à d'autres communes, il n'est pas prévu de baisser les subventions aux associations. Les charges financières, on en a parlé, donc prenant en compte les derniers emprunts réalisés. Enfin, il convient de budgéter la contribution de la commune au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, dont le montant s'est établi à 80 793 euros en 2018 et à peu près la même somme en 2017. Ce fonds consiste à prélever une partie des ressources de certaines communes et les reverser aux communes moins riches, on va dire. Donc c'est un peu une solidarité entre les communes pour la répartition d'un petit peu de richesse. En matière de recettes, les dotations devraient connaître de nouvelles baisses, notamment la dotation nationale de péréquation, on en a parlé tout à l'heure. La fiscalité, il n'est pas envisagé d'augmenter les taux, de modifier les taux cette année. Les autres recettes dont les tarifs vous ont été présentés au dernier conseil municipal vont prendre en compte les mises à disposition de la salle Europa réhabilitée, ainsi que les droits d'inscription au marché de Noël. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de dépenses, il y a un peu de recettes. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire. Je laisse la parole pour la partie investissement à Jean-Luc Boll.
Merci beaucoup, Raymond, qui a déjà annoncé un certain nombre de principes, et notamment le fait que nous souhaitions proposer une fiscalité constante aux contribuables montignens, contenir bien entendu les dépenses de fonctionnement, maintenir le niveau aussi, et c'est à souligner, de subventions aux associations, parce que nous avons, comme vous le savez, des contrats d'objectifs avec un lien très étroit avec le monde associatif, et lorsqu'il y a nécessité, on remet en cause un certain nombre de choses, on augmente ou on baisse parfois, parce que il y a des excédents. En tout cas, j'en profite pour remercier, féliciter les associations et en particulier les personnes bénévoles qui travaillent au quotidien pour les autres et leurs activités, qui correspondent aussi finalement à l'attractivité et au rayonnement de notre ville. Et comme l'a indiqué également l'adjoint aux finances, maintenir le niveau d'encours de la dette. Nous sommes toujours parmi les taux les plus bas des grandes villes de Moselle, mais 15-25 contre 23 pour d'autres, mais je ne vais pas rentrer dans les détails par grandeur d'âme. En tout cas, je voudrais simplement vous donner les grandes lignes sur l'investissement, puisque donc nous évoquerons plus tard un grand projet qui va nous occuper durant cette année, c'est le quartier Élysée, mais ce n'est pas forcément de l'investissement dont il s'agit immédiatement. Donc c'est le grand projet qui va marquer, avec une fois de plus, un certain nombre de formalités à respecter que je vous évoquerai tout à l'heure. Alors, sur l'investissement, achèvement évidemment de la salle Europa, les travaux avancent bien, j'y suis tous les jours, j'y étais encore tout à l'heure, et ça sera très beau, et également de Saint-Joseph. Donc cette belle réhabilitation de ce beau patrimoine. Et donc voilà, si il n'y a pas de famille de faucons qui viennent occuper certains endroits, on pourra continuer les travaux dans les meilleurs délais et faire en sorte que nous puissions les achever pour la fin du mois de novembre. Le lancement du projet de cantine scolaire, comme vous savez, on veut rassembler donc en un seul lieu donc nos cantines. Continue à travailler avec nos amis de l'ESAT, donc du CMSEA, ESAT Resto, parce que je pense que c'est important justement de pouvoir intégrer dans notre action publique et de, par rapport aux services auprès des enfants, des personnes handicapées, et c'est vraiment pour moi aussi très important de le souligner. Réflexion pour l'accueil et l'état civil de l'hôtel de ville qui est évidemment qui sont un peu désuets. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe ce soir et il s'agit bien évidemment de pouvoir notamment accueillir dans les meilleures conditions les personnes handicapées enfin mobilité réduite le handicap sous toutes ses formes et évidemment de toiletter un peu tout ça voilà qui était un peu vieillissant. Travaux urgents réalisés sur Jeanne d'Arc, années 50, une église qui a été donc très utilisée, notamment le sous-sol qui est très utilisé par les scouts. Et il s'agit de faire du désamiantage, scouts, mais pas seulement, puisqu'il y a une chapelle, il y a aussi des gens, des associations, des personnes qui font des réceptions, des réunions après les cérémonies, etc. Mise en conformité électrique en même temps. Nous allons travailler évidemment continuer sur le patrimoine scolaire. On a fait beaucoup, il faut bien le reconnaître. Cette année sera consacrée à la réfection totale de la cour de l'école primaire Cresseau. Sur le sport, on continue notre travail sur nos équipements avec la réfection de deux cours de tennis au stade du Canal. Enfin, nous avons pu faire l'acquisition des deux cours de l'ancienne station Total. Donc qui fait face à l'hôtel de ville et qui deviendra donc cet espace, un espace de respiration avec un square et des arbres, enfin voilà, des bancs qui permettront de donner aussi une place, une centralité réelle et un signal face à l'hôtel de ville. Développement des aires de jeu pour les enfants, place Robert Schumann. Il y a de plus en plus de nouvelles familles qui intègrent les friches. Et donc, voilà, il faut pouvoir accueillir toutes ces jolies têtes blondes et place Robert Schumann. On va améliorer déjà ce que nous avons fait sur les jeux, ainsi que également à l'espace Europa Courcelles. La sécurité également, avec l'extension du réseau de vidéoprotection. Là aussi, il y a quelques lenteurs dans les procédures, notamment au niveau de l'État, mais bon, voilà, on va y arriver. Nous allons bien évidemment continuer à accompagner en éclairage public donc le programme de travaux de voirie qui est prévu par Metz Métropole. Donc vous voyez, ce sont des travaux qui sont à la fois d'entretien mais qui correspondent aussi aux attentes de nos concitoyens. Je remercie d'ailleurs les collègues qui sont dans les quartiers qui nous font remonter les demandes. Comme vous le savez, sur la voirie, puisque la compétence est partie à Metz Métropole, nous avons néanmoins à cœur de réaliser l'urgence. Sur, vous l'avez pu le voir et vérifier, je remercie nos services sur la viabilité hivernale action-réaction. Donc, Sébastien est aux aguets, en lien avec les autres collectivités, notamment Metz Métropole, avec les TAM, etc. Tout le monde s'est coordonné pour réagir en même temps et ainsi optimiser donc les travaux sur la viabilité et donc nettoyer rapidement les chaussées et notamment sur les axes les plus fréquentés. Donc dans la nuit, 3-4 heures du matin, tout le monde est dehors et travaille pendant que tout le monde dort. Et que ensuite tout le monde puisse aller travailler dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais également dire que nous avons à cœur de maintenir justement la proximité de la réactivité quand l'un ou l'autre repère un nid de poule, par exemple. Et d'ailleurs, on va pouvoir en repérer bientôt parce qu'après l'hiver, c'est l'explosion. C'est comme les boutons d'acné chez les ados. Ça explose dans tous les sens au niveau des nids de poule. Et donc, on va devoir réagir rapidement. Et donc, on a maintenu donc la. J'ai des belles comparaisons, hein. Mais c'est explicite. Hein. Donc, tous les petits cratères qui vont sortir, donc on va pouvoir rapidement intervenir. Pas tout de suite quand il fait trop froid, parce que ça sert à rien de mettre des enrobés à froid, parce que ça tient pas. Donc, il faut attendre que les centrales d'enrobés à chaud puissent réouvrir, et donc ensuite, on fera couler ce qu'il faut au moment venu. Donc voilà, et donc la ville consent à faire donc à continuer cette nécessaire ce nécessaire travail de proximité, en complément bien évidemment du programme qui a été adopté par la commission donc cadre de vie et autres, pour qui a été transmis à Metz Métropole pour permettre que la voirie puisse être continuer à être entretenue et réhabilitée. Voilà les propositions qui nous sont faites dans le cadre de ces orientations budgétaires 2019 pour notre ville. Donc je vous cède le micro. Madame Vollmer, Monsieur Laurent.
Oui. Alors, au vu de l'intervention de Monsieur Weinheimer, je vais commencer par croire qu'il va être peut-être d'accord avec moi. En tout cas, on peut, au travers de ces propos, trouver peut-être un rapprochement, puisque j'émets un seul souhait, c'est que les mouvements sociaux se développent et contraignent notamment le gouvernement et le patronat, toujours très silencieux actuellement, à réorienter leur politique vers les citoyens et les salariés, sans aller encore une fois ponctionner les retraités. Comme par exemple, rétablir l'ISF, voire même l'augmenter, taxer les GAFAM, dont Amazon, combattre la fraude fiscale, voilà de quoi faire ruisseler l'argent à toutes et tous, et cela jusqu'au niveau des communes. Non, ça n'est pas un dogme, c'est vraiment là qu'il y a des milliards pour rétablir une réelle justice sociale. Localement, si le maintien des taux d'imposition est à saluer, un meilleur ruissellement permettrait là aussi de les baisser et de diminuer la dette de la ville, qui reste dans le contexte actuel maîtrisé, bien qu'ayant franchi la barre symbolique des 1 000 euros. Néanmoins, j'ai aussi cette crainte, comme je l'ai fait l'année dernière, la politique des vases communicants. Hein. Si la ville n'augmente pas les impôts, on peut s'attendre à ce que le département et Metz Métropole le fassent. Voilà pour le cadre général. Pour le bilan 2018, puisqu'on parle un peu du taux d'investissement de 5,43 millions d'investissements, il aurait pu être intéressant de savoir quelle est la part de la salle Europa, d'autant qu'on nous dit que la passation des marchés, le mode qui a été choisi, a permis de faire des économies. Donc, ce sera intéressant lors d'un conseil d'avoir ce bilan. Pour 2019, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on n'a pas pu faire pour la salle Europa, eh bien, ça se fait pour la future cantine, ce qui est intéressant parce que ça permet aux élus de prendre la mesure de ce projet. Pour les opérations susceptibles d'être inscrites au budget de 2019, on ne parle pas beaucoup de l'isolation des écoles, parce qu'il y a encore beaucoup d'écoles qui n'ont pas de double vitrage. Donc là aussi, c'est dommage que ce ne soit pas prévu dans l'investissement. Il y en a quand même. Prenez Cresseau. On voit bien du côté de la route, c'est isolé, mais pas de l'autre côté, ne fût-ce que pour citer cet exemple. Il manque aussi dans les projets le devenir de l'ancienne école maternelle Giraud. Il sera intéressant de donner un peu d'air dans ce quartier. En dehors de certains investissements concernant le stade Kinzig, il n'y a pas grand-chose pour le quartier du Haut. Pourtant, les besoins sont importants, étant donné la forte densité de la population, comme par exemple voir au niveau de Marc-Sannier ce qui est possible de faire, notamment en matière de bibliothèque, parce qu'on y est quand même à l'étroit. Pour le fonctionnement, me voilà rassurée, puisque lors d'une dernière commission de la culture, pour ne pas la citer, il était prévu de baisser les dotations des associations. Alors, vous me confirmez qu'on n'aura pas besoin, comme je l'avais suggéré, de baisser les indemnités. Voilà, je pense que c'est important aujourd'hui de resituer les difficultés de nos administrés et qu'en tout cas, l'argent existe, mais que malheureusement, le gouvernement reste sourd à toutes les demandes de la population. Et le budget, évidemment, s'en ressent dans les différents projets. Merci.
Merci, Monsieur Laurent.
Oui, merci Monsieur le Maire, chers collègues. Donc le débat d'orientation budgétaire, c'est un point très important, c'est, je dirais même, le point le plus important avec le budget, parce que c'est un point symbolique où on sort un peu des affaires courantes pour penser global. Si je vous dis ça, c'est parce que je vais être un petit peu long, et je m'en excuse par avance. Alors ce soir, en tant que président d'un groupe de minorité à un an des élections municipales, qui vous en conviendrait est l'acte démocratique le plus important dans la vie de notre commune, je pourrais adopter une posture politicienne, malheureusement trop bien connue, et pilonner vos orientations budgétaires. Je pourrais nous préparer une séance budgétaire bien sulfureuse, à grands coups de slogans et de propositions démagogiques, en exacerbant les problèmes et en mettant le zoom sur quelques petites situations conflictuelles. C'est très facile à faire. Vous prenez un article de blog à charge, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'exonère largement de certaines réalités. Vous rajoutez une petite fake news, vous faites monter la mayonnaise et le tour est joué. Je pourrais aussi cristalliser les mécontentements des prochains arbitrages financiers. C'est très facile. Prenons un exemple, les établissements scolaires. Nous avons eu cette année des demandes d'investissement qui correspondent au double du budget disponible. Donc forcément, ça va générer des réactions négatives à votre égard. Et on pourrait instrumentaliser cela. C'est très facile. Mais la facilité est loin d'être la réalité de la gestion de nos collectivités territoriales et de notre démocratie et de notre République. La facilité serait d'être démagogique et populiste, comme je l'ai dit, mais vous l'aurez compris, nous nous refusons d'être dans cette posture politicienne qui serait en vérité une imposture démocratique. Alors venons-en au document, déjà sur le contexte économique et financier, mais aussi politique. Ce débat intervient dans un contexte national et local qui est loin d'être anodin. Nous vivons depuis plusieurs mois maintenant un mouvement important, celui des Gilets jaunes. Il faut entendre ce mouvement. Pas les casseurs ou les excités qu'on peut voir régulièrement, mais les revendications légitimes du parti de nos concitoyens. Pour ma part, je soulignerai deux qui sont essentielles à mon avis. C'est les questions autour de la fiscalité et autour de la participation citoyenne. Sur la fiscalité, vous me permettrez une digression concernant le grand débat national. Pour qualifier ce débat, je reprendrai cette phrase de Coluche, et non de Churchill. Dites-nous ce dont vous avez besoin, on va vous expliquer comment vous en passer. C'est vraiment ça qui est en train de se passer. C'est un peu caricatural, mais c'est quand même un peu ça. Pour ma part, je ne participerai pas à ce débat. Je le trouve trop orienté. Et surtout, on se prive d'aborder les vraies questions. On veut nous faire croire qu'aujourd'hui, en France, nous ne pouvons plus financer des services publics, alors même que la France est plus riche d'année en année. La vraie question, c'est la répartition des richesses. Madame Vollmer l'a très bien dit. Et là, rien. On refuse d'aborder la question de l'ISF. On ne parle pas des 57 milliards de dividendes donnés aux actionnaires du CAC 40. Pas un mot sur le fait que les 26 personnes détiennent autant de richesses que la moitié de l'humanité. On ne parle pas de ce fléau qu'est l'évasion fiscale. Non, rien. On nous demande juste quel service public on veut sacrifier. Pour moi, c'est inacceptable. Toujours sur la fiscalité, pour revenir au document, je souhaite souligner trois points. Le premier, c'est la baisse des dotations, et sur ce point, nous sommes d'accord. Les collectivités locales ne doivent pas être la variable d'ajustement. Ce sont elles qui investissent, ce sont elles qui font vivre l'économie locale, notamment dans le bâtiment. Et donc encore cette année, et ce depuis le président Sarkozy, et quel que soit le parti majoritaire d'ailleurs, nous dénonçons ces baisses, et nous continuerons à le faire. Le second point, on le retrouve page 4, c'est l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, présentée comme ça, ça paraît un progrès. Mais en vérité, il ne faut pas s'y tromper, c'est une baisse de salaire, car les cotisations retraite sont bien du salaire indirect. Et ça se fait écho à ce que je disais précédemment, on répartit les efforts sur les travailleurs et non sur ceux qui vivent de leur rente et des dividendes. Certains me répondront, oui, mais le ruissellement, tout ça. Mais force est de constater que le ruissellement, il n'y en a pas, et en tout cas, on ne le voit pas arriver. Troisième point, c'est la suppression à terme de la taxe d'habitation. Alors oui, cette taxe n'était pas exceptionnelle, elle n'était pas très juste puisqu'elle touchait tout le monde sans réelle prise en compte des situations ou alors de façon assez minime. Mais sur ce point, il aurait fallu créer un mécanisme fiscal juste et dynamique permettant aux communes d'avoir des marges de manœuvre qui répondent à la situation réelle de leur collectivité. Et aujourd'hui, cette suppression ôte à notre collectivité tout moyen d'action par rapport à cette fiscalité et aux rentrées d'argent. Oui, je pense que les élus locaux sont capables de gérer un budget, d'être raisonnables. C'est pour cela que nous nous engageons d'ailleurs. Il est temps que notre gouvernement fasse confiance aux élus locaux plutôt que d'essayer de nous mettre sous tutelle. Aujourd'hui, nous sommes face à une défiance vis-à-vis des élus, bien alimentée d'ailleurs par l'idée de dégagisme utilisée, à mon avis, abusivement par l'extrême gauche, l'extrême droite et La République en marche lors des dernières présidentielles. Et c'est une question qui est inquiétante pour notre démocratie. On entend souvent que les élus seraient à l'origine de tous les maux de notre société et qu'ils nous coûteraient un pognon de dingue. Alors même que 90% des élus en France sont bénévoles, c'est un peu fort de café. À mon avis, sur ce sujet, le pire est à venir, puisqu'il paraît qu'un référendum qui s'annonce bien démagogique devrait voir le jour prochainement. Vous pourrez d'ailleurs le budgéter pour une nouvelle séance d'ouverture des bureaux de vote cette année. Mais attendons encore un petit peu. Cela va me conduire à parler de la participation citoyenne, mais avant cela, je souhaitais refaire quelques remarques sur le document des orientations budgétaires, notamment sur les investissements. Concernant la dette, elle est maîtrisée. Nous sommes dans la moyenne par rapport aux communes de la même strate, et c'est très bien, nous le saluons tous les ans d'ailleurs. Il n'y a pas dans vos orientations de proposition de gros investissements sur de projets nouveaux, et cela nous semble raisonnable, tant pour cette année que pour les suivantes, car nous disposons aujourd'hui d'équipements structurants rénovés, et qui le seront à la fin de l'année. Je pense à la piscine, à la salle à repas, à nos églises, et il reste évidemment la cantine scolaire qui sera opérationnelle à la rentrée 2020. Et je pense qu'en attendant le futur quartier Élysée, il faut se concentrer sur l'existant et y apporter des améliorations. Et c'est, me semble-t-il, ce que vous proposez cette année. Alors, comme je l'ai indiqué, nous ne serons pas dans la démagogie. Nous n'allons pas vous demander de faire des investissements sur les gros équipements, comme une salle de spectacle, par exemple. Et rassurez-vous, Monsieur Weinheimer, nous n'allons pas demander non plus la mise en place de la gratuité pour tout et sur tous les sujets. Bien que sur le transport, le débat, je pense, doit être mené au niveau de la métropole. C'est un enjeu quand même important de la transition énergétique et du développement durable. À ce sujet, vous proposez de poursuivre la démarche Citergie. C'est très bien, comme d'ailleurs la poursuite des diagnostics énergétiques pour les particuliers. Mais j'attire votre attention sur la suite de ces actions, car au-delà des diagnostics, il faut agir et accompagner nos citoyens dans leur démarche. Je suis assez inquiet quant au devenir des associations et leur financement. Je pense notamment à l'ALEC, mais bon, je n'avais pas eu les informations que vous nous avez données en préambule de ce conseil, qui sont assez rassurantes et qui vont dans le sens de ce que je viens de dire. Un autre point du DOB. Vous annoncez des aménagements complémentaires sur les aires de jeu. À ce sujet, nous souhaiterions que soit étudiée, à l'instar de beaucoup de communes, la mise en place d'une zone non-fumeur sur ces espaces-là, ainsi que devant les écoles. Je pense notamment à une aire que vous allez aménager et on a l'impression de se retrouver dans les cafés d'il y a 20 ans, par moment. Et c'est regrettable. Voilà pour nos observations sur le document, et j'en reviens donc à la participation citoyenne. Dans ce domaine, nos propositions ne vous surprendront pas, car sur ce point, nous sommes assez constants depuis plusieurs années. Mais comme je l'ai dit en introduction, le contexte actuel appelle de notre part un effort particulier. Je ne dis pas créer un effet dans le domaine. La municipalité est présente sur les réseaux sociaux, échange avec les citoyens. Vous faites des tournées de quartier, monsieur le maire, des réunions publiques. C'est très bien, mais à notre sens, ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, il faut aller plus loin en incitant les Montignennes et les Montigniens à être des citoyens actifs dans la vie de la cité. Alors oui, ce n'est pas quelque chose d'aisé à faire. Et pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je rappelle que c'est bien pour nous la démocratie représentative qui prime et qui est le ciment de notre République. Je parlerai ici donc plus de concertation citoyenne que de démocratie participative. Et pour étayer cette demande, je vais vous donner deux exemples très, très concrets de ce que nous pourrions faire à Montigny. Le premier, je l'ai vécu dans ma rue. Un jour, j'ai vu débarquer des engins de chantier, sans aucune information dans ma boîte aux lettres, ni sur le site de la mairie, pour refaire une place qui en avait fort besoin au bout de ma rue. Même moi, en tant que conseiller municipal, je n'avais pas pu répondre aux nombreuses interrogations de mes voisins. Peut-être que ça ne concernait pas la commission dans laquelle j'étais, mais en tout cas, je n'avais pas d'informations. Ben là, je pense que nous aurions pu consulter les riverains sur leurs attentes et leurs besoins, regarder avec eux ce qui était possible de faire. Cette consultation a été de nature à rapprocher les citoyens de la collectivité. Et pour être tout à fait honnête, je pense que cet aménagement, au vu des contraintes réglementaires et pratiques, aurait été exactement le même que celui qui a été réalisé, qui est très bien réalisé. Donc vous allez me dire, c'est une perte de temps. Ben non, je ne pense pas. Je pense que ça aurait permis aux résidents de comprendre le pourquoi du comment, de toucher du doigt le rôle d'élu, de nos services techniques, d'être impliqués dans la vie de notre quartier. Un autre exemple, dans un autre domaine, vous allez prochainement rendre les arbitrages budgétaires, notamment sur les investissements des écoles, j'en ai déjà parlé. La consultation, elle se passe bien, ça passe via les conseils d'école et les représentants des parents. Ça, il n'y a pas de souci. Mais rien n'est prévu en retour sur ces prises d'orientation. Vous allez juste annoncer dans les conseils d'école ce qui ne sera pas retenu dans chaque école. Et donc, vous allez générer de la frustration parce que tel ou tel projet n'est pas retenu. Et sur ce point, je pense qu'une réunion de tous les représentants de parents, d'élèves, une fois par an, serait nécessaire. Ils peuvent comprendre qu'il y ait des impératifs de mise aux normes réglementaires, qu'il y ait des investissements, comme vous le proposez dans le document, avec la réflexion de la cour d'une école, qui sont indispensables à la sécurité de nos enfants. Mais pour qu'ils le comprennent, il faut encore faire l'effort de l'expliquer. Et c'est vrai dans de nombreux domaines qui dépendent des compétences d'une mairie. Nous avons confiance des efforts que cela demande. Ce ne sera pas une sinécure. Nous savons que certains n'accepteront pas les choix faits, qu'ils protesteront et reviendront à la charge. Mais l'échelon municipal est celui de la proximité, vous l'avez rappelé, monsieur le maire. Et oui, nous sommes en première ligne, à portée d'engueulade, comme on dit. On est au quotidien confronté à ça. Et même dans la minorité, je peux vous dire qu'on se fait engueuler pour vous, souvent.
C'est normal.
Donc je pense que notre rôle, c'est d'impliquer les citoyens et d'expliquer, de faire de la pédagogie et encore. Oui, c'est pénible, parfois chronophage, de se répéter, mais je pense que c'est notre devoir, chers collègues, de faire cela. Donc voilà, monsieur le maire, chers collègues, notre souhait pour ce prochain budget, car évidemment, ces consultations coûtent de l'argent, ne serait-ce que pour l'organisation et la mobilisation de nos services qu'elles nécessitent. Nous ne demandons pas un plan global soit établi en un mois, mais que le travail soit engagé. Et pour être concret, je vous propose deux sujets en lien avec vos orientations budgétaires. Le premier, c'est les aires de jeu. Eh bien, consultons les usagers et les parents pour savoir sur ces équipements comment on peut améliorer les espaces, ce dont ils auraient besoin. L'autre proposition, elle n'est pas nouvelle, on l'a déjà faite. C'est une grande consultation sur la nouvelle cantine scolaire. Et je pense que c'est cette année qu'il faut engager cette grande concertation. Voilà, chers collègues, nos propositions pour ce budget. Nous attendons, si je puis me permettre, du renouveau dans le renouveau. Et je conclurai avec cette phrase que j'ai beaucoup entendue dans votre majorité ces derniers temps, notamment à l'occasion des vœux. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je vous remercie de votre attention.
Alors, merci pour l'un et l'autre pour ces remarques et votre engagement. Moi, je voudrais simplement dire à Madame Vollmer que je comprends son engagement politique, mais que ici nous sommes sur des choses concrètes et que voilà, moi j'essaye de faire le job avec les moyens qui sont les nôtres et je n'essaie pas de faire la révolution que vous attendez. Je veux simplement faire en sorte que nos concitoyens puissent vivre mieux dans les meilleures conditions possibles et je pense que la dimension sociale correspond évidemment à tout ce que nous déclinons à travers l'action quotidienne qui est la nôtre, et que ce soit à travers ces grands travaux, mais aussi, puisqu'ils servent pour beaucoup de monde, mais également, évidemment, ensuite, à travers les actions que nous menons et le soutien que nous faisons aux diverses actions qui sont menées dans la ville. Sur la question liée particulièrement à ce que vient de dire Monsieur Laurent, je veux dire que nous avons sous les jeux préalablement consulté, et c'est la raison pour laquelle nous faisons ces jeux, puisque moi je suis en contact direct avec les gens, et notamment sur Schumann, comme sur Europa Courcelles, donc j'étais en contact avec les parents qui utilisent un maximum les jeux, et donc j'ai bien compris après les différentes rencontres qu'il n'y avait pas suffisamment d'équipement, et donc voilà, il s'agit d'apporter quelque chose qui soit un peu plus imposant, adapté aussi à différentes tranches d'âge, parce qu'il y a des jeux pour les tout petits, notamment sur Europa Courcelles. J'ai rajouté des balançoires, mais on va rajouter d'autres jeux qui sont encore beaucoup plus importants et qui seront vraiment intéressants pour les enfants. Et d'autre part, sur la cantine, nous avons prévu, aujourd'hui j'ai fixé la date, une réunion avec les parents d'élèves pour présenter donc le projet, échanger avec l'architecte qui est un architecte pontinien, qui a eu à cœur d'ailleurs d'aller dans les cantines qui fonctionnent aujourd'hui, parce que vous savez que nous sommes dans un fonctionnement particulier avec les AT, donc resto, et que voilà, il s'agit de prendre en compte la problématique notamment des enfants qui sont autistes et qui nécessitent un traitement particulier, avec donc tout ça, il essaie de se rendre compte déjà des réalités, savoir que dans une cantine, il y a aussi des enfants qui sont à mobilité réduite, mais qui sont aussi qui sont allergiques, donc il y a des repas spéciaux. Donc tout ça, ça participe du travail préalable de l'architecte et de nos services pour intégrer tous ces éléments-là concrets vécus aujourd'hui dans le futur projet. Donc voilà, il y a tout outre le côté architectural, architectonique, des grandes voilà, il y a aussi des choses très concrètes pour permettre de coller au mieux aux attentes des enfants et aussi des utilisateurs que sont les personnes qui servent et autres. Donc voilà, je pense que la concertation, elle est là. Moi, je suis aussi évidemment conscient que dans cette période que nous connaissons, il est nécessaire d'accentuer peut-être les contacts avec la population. Bon, moi, je suis constamment sur le terrain, matin, midi et soir, que je sois ici ou à la métropole, mais c'est la même chose parfois ou au niveau régional. Ceci dit, moi, je suis heureux de vivre dans une ville où nous avons des citoyens qui sont actifs, dans des associations, plus de 100 associations, avec un conseil des jeunes que nous écoutons. Il y a des jeunes qui sont des remarquables et on a une très bonne génération cette année. Un conseil des seniors également, donc qui apportent leur avis. On les associe notamment sur les travaux, la salle repas, etc. Donc je pense que c'est important de pouvoir écouter tout ce beau monde. Et puis, j'ai retenu l'interdiction de fumer sur les espaces publics. Moi, ça me dérange pas. D'autant que vous avez pu voir, on a mis, ça fait le buzz d'ailleurs, et ça fait plein d'envieux, et ça nous fait parler de nous, sur les cendriers de sol qui sont disposés de ci, de là, dans la ville, et ça, c'est une innovation. Donc, je vous rappelle qu'on était labellisé dans le cadre de l'Association des villes pour la propreté urbaine, avec des prix, deux prix que nous sommes allés retirer à Versailles, c'est la ville de Château. C'est une fierté pour moi et pour nos services qui sont évidemment au service au quotidien, sur des choses pas toujours faciles, et notamment quand il fait froid. La dimension de développement durable, on a été labellisé Citergie au niveau de métropole avec également une troisième place qui est sur les 22 métropoles de France. Donc voilà, on a été classé et je trouve que c'est super. Et donc nous avons dans la continuité de l'agenda 21 souhaité nous inscrire également au niveau de la ville sur Citergie. Et les actions concrètes, alors donc là actuellement on a une AEMO qui nous, une assistance à maîtrise d'ouvrage qui nous assiste sur ce chapitre-là, avec des déclinaisons concrètes qui seront bien évidemment mises en œuvre. Et je pense notamment à la maison du Pays Messin qui sera transformée en maison aux ateliers de Jean-Marie. Et on pourrait d'ailleurs dire du Jean-Marie en Pays Messin, mais bon, voilà, on va quand même... à travers également, par exemple, les diagnostics énergétiques que nous faisons avec avec la LEC, etc., puis avec les moyens dont nous disposons pour venir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui utilisent tout cela. Donc voilà, il y a vraiment là de matière à progresser. Et je suis évidemment toujours en attente de toutes les suggestions des uns et des autres, notamment sur l'utilisation des jardins, parce que je pense que c'est important dans une période telle que nous connaissons, de travailler sur la politique des jardins partagés, des jardins de ville. Nous avons, vous le savez, isolé un certain nombre de parcelles qui permettent de créer ces jardins. C'est du développement durable, mais pas seulement. Ça permet aux gens de se rencontrer, de se parler. Dans une ville, c'est important qu'on puisse se parler, se connaître. et d'avoir une sortie, une vie sociale, et aussi, eh bien, finalement, de, pour certaines familles qui sont parfois dans la difficulté, de pouvoir cultiver les légumes et les fruits et tout ça. Donc, je trouve que c'est bien, et j'encourage, encore hier soir, dans une réunion avec des Montignaines et des Montigniens engagés, donc que chacun puisse être aux aguets pour tout cela et nous répercuter les attentes de la population. Donc voilà, merci. Ce sont nos orientations budgétaires et on va, enfin, c'est un débat. Ah, pardon, Raymond va continuer. S'il y a pas, je sais pas s'il y a d'autres interventions encore, mais Raymond.
Oui, je voudrais simplement prendre la parole pour rassurer nos collègues et qu'il n'y ait pas de malentendu, d'incompréhension. Non, j'ai pas rallié la cause de Madame Vollmer. Je voulais quand même le dire, parce que on sait jamais qui peut, comment ça peut être. Vous savez, les fake news, ça va vite, hein, aujourd'hui. Et lui dire qu'en fin de compte, quand j'ai parlé des mouvements sociaux tout à l'heure, c'est justement, presque je ne sais pas, et on ne sait pas aujourd'hui, quelle influence sera sur la croissance. Et malheureusement, ça ira plutôt dans le mauvais sens que dans le bon sens. Mais j'espère que ça ira dans le bon sens. Voilà, simplement. Et remercier Monsieur Laurent, qui m'a rassuré sur la gestion de la commune. Je vous remercie, Monsieur Laurent.
Voilà, merci. En tout cas, je pense que c'est important qu'il faille débattre. Et moi, je suis heureux qu'aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons, le débat a lieu, que les villes et les maires sont au cœur du débat, que nous sommes engagés aussi pour être à l'écoute, c'est un minimum, et qu'on se soit rendu compte dans les certaines sphères parisiennes, eh bien, que les communes sont là, que les maires sont là, que nous sommes les hussards et que nous sommes toujours allés de l'avant pour pouvoir venir au service de nos concitoyens et les collectivités territoriales, bien évidemment, dans, au travers des compétences qui sont les leurs. Donc voilà, est-ce que, alors, je crois qu'il faut voter sur le fait de prendre acte. Non ? Bon, parce qu'à dire, on me dit ça, bon. Donc ok, donc on prend acte, tout le monde prend acte de ces orientations que nous aurons à décliner concrètement lors de la présentation du budget, dès qu'on soit d'ailleurs aussi en capacité de pouvoir connaître les bases durant la première quinzaine de mars, je crois, et ensuite donc on présentera à la fin du mois le budget.